Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo ce soir, le festival Terre du Son, c'est les 11, 12 et 13 juillet sur le domaine de Candé, juste à côté de Tours. Trois scènes, une vingtaine d'artistes par jour, par soir. On vous présente tout ça avec la directrice du festival, Pauline Ruby. On aura aussi le plaisir d'écouter un reportage, L'eau, un enjeu de société, en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Aujourd'hui, on parle de l'importance des zones humides nantaises avec nos amis de Radio Prune. Voilà, vous savez tout, alors ajustez votre gilet de sauvetage, c'est parti, le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le rendez-vous est donné à quelques arrêts de bus du centre-ville de Nantes, au bord d'un chemin boisé menant à la rivière. Un groupe de bénévoles est réuni pour prêter main forte lors d'un chantier d'entretien participatif organisé par la Fédération des Amis de l'Erdre. L'objectif de cette asso nantaise créée en 91, impliquer le public dans la préservation des zones humides. Sébastien Boutin de Prune a rencontré Gwendoline Monnier, chargée des missions zones humides et animatrice de cette activité pour la Fédération des Amis de l'Erdre.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Le rendez-vous est donné à quelques arrêts de bus du centre-ville de Nantes, au bord d'un chemin boisé menant à la rivière. Un groupe de bénévoles est réuni pour prêter main forte lors d'un chantier d'entretien participatif organisé par la Fédération des Amis de l'Erdre. L'objectif de cette association nantaise créée en 1991, impliquer le public dans la préservation de ce milieu naturel. C'est l'occasion de rencontrer Gwendoline Monnier, chargée de mission Zone Humide et animatrice de cette activité.
Donc la Fédération des Amis de l'Erdre, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui a pour but de préserver l'Erdre, son bassin versant, sa biodiversité, sa qualité de l'eau. Donc il y a deux grands axes. D'un côté, la préservation des milieux naturels et la qualité de l'eau. Donc on va faire beaucoup d'études sur les zones humides. On va regarder la faune, la flore, comment l'eau circule, comment ça fonctionne, pour mettre en évidence quels sont les enjeux sur ces secteurs-là. Et après, on met en place des mesures de gestion, de restauration des milieux naturels. Une grande partie de ces actions, que ce soit les inventaires et surtout les chantiers, sont faits avec des bénévoles où on implique les citoyens et les citoyennes. L'autre champ d'action de l'association, c'est l'éducation à l'environnement, à la nature. Donc on va faire à la fois des animations dans les écoles, les collèges, les centres de loisirs. Il y a aussi des sorties grand public pour parler au maximum de ces sujets-là avec une approche sensible et d'éducation populaire. Et il y a aussi une volonté de rendre la nature accessible pour toutes et tous.
C'est comme ça, je sais, tout à l'heure je vous parlais du campagnol amphibie. Bah, quand il faut aller le chercher, des fois, hop, je pense, il faut réfléchir campagnol amphibie. On se met tout bas et puis on essaye de regarder. Ok, où est-ce qu'il y a des petites galeries qui commencent? Et puis c'est là où on va venir remonter comme ça le chemin du campagnol amphibie.
Donc là, on est devant une frayère à brochets qu'on appelle la frayère de la Noue, ici. Donc c'est une zone humide, donc il y a beaucoup d'eau dans le sol. Et c'est un endroit qui est un peu particulier parce qu'il se retrouve vraiment au bord de la rivière. Et donc c'est un endroit qu'on a restauré il y a 10 ans pour qu'il y ait les bonnes conditions pour la reproduction du brochet. Les lieux où le brochet peut se reproduire, c'est ce qu'on appelle une frayère.
L'idée, en fait, c'est de venir tailler tous les jeunes arbres qui repoussent. Donc l'avantage, en fait, vu qu'on le fait régulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir la grosse tondeuse, on peut faire ça avec nos petits sécateurs. On vient couper bien à la base, donc vous voyez, il y en a un peu partout, et puis après, on les ramène tout en haut.
On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas avoir envie de préserver ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut connaître et être dans le faire, c'est un super moyen de connaître et même plus de sentir, en fait. C'est savoir un nom, c'est bien, d'un nom de plante ou quoi que ce soit, mais avoir un peu un lien particulier, comprendre cette plante, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est plus fort et qui va avoir voilà, de donner plus d'envie aussi de préserver ces milieux-là.
Au beau milieu de la Frayère, Ludovic, un bénévole de l'association, est à l'œuvre. C'est son deuxième chantier de la journée.
Gwendoline nous a demandé en fait de couper les repousses d'arbres. Il y a du saule, il y a du frêne de mémoire et il y a aussi de l'osier.
On avait compté qu'on a à peu près 150 à 200 personnes qui passent par nos chantiers, sur nos chantiers par an. Donc il y a des gens qui viennent qu'une seule fois, il y a des gens qui reviennent tous les samedis comme tu as pu le voir. Il y a une petite troupe d'une trentaine de bénévoles que je revois régulièrement dans l'année.
Ce matin, on a remis une mare en état, coupé des arbres pour pouvoir ramener la lumière. On fait aussi 2-3 fois par an des ramassages à déchets le long de l'Erdre. Et on rouvre aussi hier quelques prairies.
Tout ce qu'on fait là, nos chantiers bénévoles, c'est un lien social entre les gens qui ne se seraient probablement jamais croisés. Des fois, on va travailler avec des associations de jeunes qui vont être en réinsertion. Des fois, on va travailler avec des personnes qui viennent d'instituts médico-éducatifs. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà. Et donc, tous ces gens-là, ils se mélangent et ils travaillent ensemble. Et travailler ensemble, eh bien, tout de suite, ça crée du lien entre les gens. Et ça, c'est aussi hyper important. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire de préservation de l'environnement sans faire du lien entre les gens, sans mêler le social et l'écologie sont étroitement liés. Et c'est ça qu'on essaye aussi de refaire à l'association.
Il reste juste un petit peu à finir de ramasser ce qui a été fauché, donc on peut se mettre au râteau.
Okay.
Et puis je pense que dans 10 minutes on a terminé, on se fait une petite pause goûter.
C'était L'eau, un enjeu de société, une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Je vous propose qu'on se laisse quelques instants avec Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura qui ouvrira le festival Terre du Son. C'est les 11, 12 et 13 juillet prochains, juste à côté de Tours. On écoute son titre Salsa sur Campus.
Para.
Yuri Buenaventura sur campus. Merci à toutes et à tous d'être avec nous à bord du pédalo. Figurez-vous que notre invité du soir a une histoire toute particulière avec Yuri Buenaventura. Bonsoir Pauline Ruby.
Bonsoir.
Directrice du festival Terre du Son, de l'association Terre du Son, festival sur le domaine de Candé, pas très loin de Tours, les 11, 12 et 13 juillet. Racontez-nous Yuri Buenaventura, 20 ans après.
Oui, c'est ça, la petite histoire, le petit clin d'œil, il est là. C'est que Yuri Buenaventura avait inauguré cette première édition du Festival Terre du Son qui se déroulait donc à Tours, sur l'esplanade du parc des expositions à l'actuel IKEA de Tours, pour ceux qui connaissent. Donc, il avait lancé la première édition. Donc, pour cette 20e édition, c'est un des clins d'œil qu'on a voulu marquer en le faisant à nouveau venir. Et il inaugurera cette 20e édition. Donc, ça nous faisait plaisir de le faire venir à nouveau.
Et il est content, lui, de revenir ?
Il est ravi. En tout cas, c'est ce qu'il nous laisse savoir, en tout cas via ses producteurs.
Qu'est-ce que ça représente 20 ans plus tard, Terre du Son, quand on regarde un peu et qu'on se souvient de cette première édition ?
Ah, c'est une vaste question. Alors, c'est un festival qui a déjà beaucoup évolué en termes de public. C'est ce qui est le plus flagrant, puisque je crois que j'ai plus les chiffres en tête. J'étais pas là à la toute première édition, mais il y avait 2000 personnes. Et aujourd'hui, on a accueilli jusqu'à 60 000 personnes. Donc déjà, il y a une histoire de jauge hein, qui est beaucoup plus importante. Et puis, ce qu'il faut retenir en 20 ans, c'est... Vraiment, ce qui n'a pas changé et ce qui n'a même fait que grandir, c'est cette aventure humaine qu'on peut avoir avec nos bénévoles, avec toute l'équipe organisatrice. Et ça, c'est fondamental pour que l'organisation se déroule pour le mieux et qu'on puisse mettre en place à la fois les concerts et puis toutes les animations qu'on propose à nos festivaliers et qui pendant les 3 jours du festival.
Alors, au Festival Terre du Son, il y aura plein de petits clins d'œil hein, à ces 20 ans. Il y aura des petites surprises qui ne sont pas vraiment des surprises puisque annoncées. Mais j'ai cru voir qu'il y aurait la compagnie Off qui serait présente. Il y aura une grande batucada aussi.
Oui, tout à fait. En fait, on a voulu marquer ce 20e anniversaire par des temps forts, en mettant en avant aussi l'art de rue, qui est un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de conjuguer avec la musique. Et donc, chaque jour, on aura un temps fort. Donc, on a parlé de la batucada. Donc, c'est 200 percussionnistes qui vont venir de toute la France et qui vont déambuler sur toute la prairie. Donc, ça va être visuellement et musicalement très fort. Et puis, on a souhaité inviter la compagnie Off en clôture de festival. Donc, ils font la clôture de cette 20e édition avec leur spectacle Color Wheels, qui est un spectacle qui pour la petite histoire, avait reçu un prix au célèbre festival du Burning Man aux États-Unis. Et donc, ils viendront clôturer cette 20e édition avec ce spectacle qui est ponctué de grandes roues qui montent jusqu'à 14 mètres de hauteur, si je ne dis pas de bêtises, avec des feux d'artifice, de la lumière, de la musique. Voilà, ça va être très vivant, très joyeux.
Que les Tourangeaux et Tourangelles avaient d'ailleurs eu l'occasion déjà de voir à Tours. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a 3-4 ans, ils avaient déambulé dans la ville de Tours, tout à fait.
Est-ce qu'il y aura des surprises qui ne sont pas écrites au programme pour ces 20 ans ?
Oui, il y a des petites choses qui ne sont pas encore écrites pour nous, bien sûr, mais pas, qui ne sont pas communiquées auprès du public. Voilà, beaucoup de choses autour de l'art de rue, notamment, pour surprendre les festivaliers au moment où ils s'y attendent le moins.
Alors, l'art de rue, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez hein, régulièrement. Jusqu'alors, il y avait le village électrique qui permettait une sorte de grande fête foraine au cœur du festival avec des courses de chevaux. On pouvait faire vraiment tous les éléments des courses de chevaux électroniques, j'entends. une sorte de grand ring. Il y avait plein de choses diverses et variées sur ce village. Là, cette année, plus de village électrique.
Non, mais c'est remplacé par les Toto Black. C'est un petit peu c'est le même concept. C'est les papas, en fait, des moutons électriques qui sont un peu les enfants des Toto Black. C'est-à-dire que les Toto Black sont une compagnie qui existe déjà depuis 20 ans, je crois. Et donc, à la place du ring, cette année, on aura une piste de roller disco. Donc, vraiment, dans l'idée aussi de proposer des nouveautés aux festivaliers. Ça faisait 3 ans qu'on accueillait les moutons électriques. Et puis, il y aura plein d'entresorts pour surprendre les festivaliers. Et ça risque de bien, bien bouger au même titre que ça bougeait déjà avec les moutons électriques.
Est-ce qu'on parle un peu de la programmation ?
Bien sûr.
Ça te va, parce que encore une fois, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Damso, Lamo Mali, Clara Luciani, Philippe Catherine, Caravan Palace, Carbone, Como Dragon the Mundo d'Or, qu'on aime beaucoup à Angers, j'en passe et des meilleurs. Racontez-nous un peu votre prog, c'était quoi la direction artistique de la programmation cette année ?
Elle était au même titre que tout ce qu'on a fait pour cette 20e édition. Il n'y avait pas cette envie d'avoir... un artiste ultra planétaire qui aurait ponctué la prog et qu'on n'aurait plus jamais pu refaire. Enfin, il n'y avait
mais
pas
vous
du
pouvez
tout cette
pas.
Idée-là. Déjà, d'une qu'on ne peut pas. Voilà, ou alors on en fait un. Ça ne s'appelle plus un festival. C'est une autre possibilité. Non, j'avais vraiment cette envie de proposer une programmation à l'image de ces 20 dernières années, donc avec du rap, de la chanson, du rock, de la musique du monde, etc. etc. Et donc, on a travaillé cette programmation. En ce sens, en laissant une place aussi à une programmation de plus en plus féminine. En tout cas, on essaye de tendre vers une programmation égalitaire. Donc, c'est pas facile. Donc, on est
ravis
d'avoir.
Vous n'êtes pas encore, mais vous tendez vers ça. Hein. Vous avez des pourcentages ?
Oui, aujourd'hui, sur la programmation de cette année, on approche des 40%. Donc, ça, on n'est pas encore à la parité totale, mais voilà.
Mais bien au-dessus de la moyenne nationale.
On est au-dessus de la moyenne nationale, tout à fait, qui est de 17 ou 18%, il me semble.
Oui, exactement. Peut-être que les grands noms, on va passer outre. Je suppose que les auditeurs, auditrices de Campus les connaissent déjà, même si on peut citer Étienne de Crécy, Chinese Man, Orcals Orchestra, Eldebert, etc. etc. Peut-être qu'on pourrait revenir sur les artistes Tourangeau-Tourangelle, les artistes émergents. Est-ce qu'il y a des noms que tu voudrais souligner ? Moi, j'ai repéré Tigre Bleu qui me donne très envie.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une des artistes parmi la quinzaine, vingtaine qu'on accueille chaque année, enfin des artistes locaux qu'on peut accueillir chaque année, puisque on est en lien avec différents dispositifs, avec les écoles de jazz à Tours, de Tous en scène et le dispositif Propulsion qui est parrainé par la Fracama. Et via ce dispositif, on a des artistes qui vont se produire à la fois sur les grandes scènes de la prairie, aussi sur le village, pour rencontrer le public le plus adapté à leur style musical. Donc effectivement, on peut citer Tigre Bleu, mais, ou alors aussi Angle Mort et Clignotant, que moi personnellement, j'aime beaucoup.
Je ne connaissais pas, peut-être que vous pouvez un peu nous en parler.
Alors oui, on est sur une musique une musique techno très très alternative, et pour faire la fête, c'est vraiment cool.
ça c'est toute la programmation un peu officielle qui se passera sur la prairie, mais la particularité de Terre du Son, c'est que vous y a aussi toute une partie complètement gratuite qui s'appelle l'éco-village, et ça c'est pareil, ça dure tout le week-end, et il y a des conférences, des concerts, etc. etc.
Oui, effectivement, l'éco-village, il est ouvert chaque jour totalement gratuitement, de 11h à 22h chaque jour. Ça se passe sur l'esplanade du château. Donc, en plus d'avoir de nombreuses animations, on a une vue, une très belle vue sur toute la vallée de l'Indre. Donc, c'est très, très beau, accessoirement. Et puis, effectivement, sur ce village, on retrouve des concerts de groupes locaux, des animations pour les enfants, des spectacles aussi pour les enfants, de la restauration locale. Et puis, cette année, autre clin d'œil, sur le village, on a la compagnie Nasbrock Circus qui revient pour présenter un spectacle inédit créé spécialement pour le 20e anniversaire du festival, puisque c'est une compagnie qui était présente de 2005 à 2016, il me semble, si les dates sont bonnes, sur le festival, et qui, pour la 20e édition, on a réussi à les convaincre, puisque c'est une compagnie bénévole, de se reformer pour recréer un nouveau spectacle. Donc ça va être un très beau moment, ils se produiront deux fois par jour, et ça va être ça va être pour petits et grands, adapté pour tout le monde.
Une des propositions dans cet éco-village qui, moi, m'a tout de suite tapé dans l'œil, ça se passe le dimanche 13, c'est sur le parvis du château, et c'est Roda de Samba, et c'est recréer un peu l'ambiance très proche du public, très populaire, de cette musique brésilienne. Tout le monde assis autour d'une table et on joue.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est des musiciens qui joueront la veille. On en a parlé tout à l'heure dans la Bactoucada qui déambulera sur la prairie et qui viennent le dimanche faire un set vraiment très spécial avec des danseurs, des danseuses pour créer une ambiance brésilienne sous le soleil de Candé, parce que si tout va bien, il devrait faire beau pour le dimanche, tout à fait.
Peut-être qu'on peut un tout petit peu parler quand même du contexte économique global des festivals. Nous, dans les Pays de la Loire, on est évidemment très impacté par les coupes budgétaires de la région annoncées par le Conseil régional et enfin validées par le Conseil régional et une politique menée par Christelle Morançais. Comment ça va, vous, en Touraine? Je sais que l'écosystème des festivals de la même taille que Terre du Son, comme par exemple les Foins de la Rue ou bien le Dubcamp Festival, c'est assez difficile, c'est bien compliqué. Racontez-nous un peu comment ça va.
Oui. Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Effectivement, c'est difficile. On ne va pas dire le contraire. Aujourd'hui, le festival, il est autofinancé à 96%. 94, pardon. 94%. Donc, c'est-à-dire que sans public, sans consommation, sans partenaire privé, aujourd'hui, le festival, il n'existe pas. Et on a aujourd'hui des cachets artistiques qui sont phénoménales. Des conditions techniques qui vont de pair, des hausses budgétaires en termes d'assurance, par exemple, qui, voilà, cette année, on a encore pris 15 000 euros, pour donner un chiffre. Donc, c'est des augmentations qui sont très, très importantes. Et de l'autre côté, on essaie de maintenir un tarif accessible à notre public en ne dépassant pas, pour l'instant, en tout cas, les 49 euros le passe un jour pour voir plus d'une vingtaine d'artistes. Donc on fait encore partie des festivals de cette taille les plus accessibles de France, mais ça devient extrêmement compliqué. Et si on parle des financements publics, alors on est certes moins impacté que vous pour le moment en région Centre-Val de Loire, mais on a tout de même subi des baisses du département et on est encore en attente de la région. Sur un écosystème difficile, l'équilibre budgétaire d'une édition, il est de plus en plus élevé. Et ce qui fait que voilà, on a besoin du public pour que le festival continue de perdurer.
Besoin du public, donc ça veut dire qu'il faut que les gens viennent. Est-ce que si jamais le taux de remplissage est bon, ça assure au festival des revenus suffisants pour pérenniser son existence? Ou est-ce que ça va au-delà de cette course à la fréquentation?
Alors oui, effectivement, nous, on a sur les 20 ans du Festival Terre du Son, les années équilibrées et qui ou bénéficiaires se comptent accessoirement sur les doigts d'une main. Donc on a toujours été borderline. Aujourd'hui, en fait, la difficulté, c'est que s'il nous manque des fois peut-être rien que 1 000 personnes, on est sur des conditions où le déficit il serait quand même très important. Les coûts sont tellement élevés. Donc, non, aujourd'hui, on a un équilibre de jauge qui est à plus de 80%. Donc, c'est quand même énorme.
Ça implique quoi? Ça implique une course au remplissage, ça veut dire augmenter la taille du festival, ou bien un peu comme le Dubcamp Festival, de passer, eux, ils sont passés en 2024 de 4 jours à 3 jours, ils ont réduit le nombre de scènes. Est-ce que l'idée, c'est de revenir aussi à des festivals plus petits, plus locaux, avec moins d'artistes d'envergure nationale? Comment est-ce qu'on fait pour réinventer un peu cet écosystème des festivals qui... Et tout le monde le dit, hein, dans les médias, dans la presse, qui est un peu à bout de souffle.
Bah, c'est une bonne question. On y réfléchit. On y réfléchit. Aujourd'hui, on n'a pas la solution magique. On reste assez convaincu que proposer de nombreux artistes, de mettre en avant cette scène locale, nationale, sur un même événement, c'est quand même l'ADN d'un festival et qu'on aimerait continuer de proposer ça à notre public. Mais si demain on n'est plus aidé, si demain le public répond plus présent, si demain nos partenaires ne répondent plus présent, il faudra effectivement, comme le fait le Foin de la Rue en 2026, faire des pauses, se réinventer pour éviter peut-être de disparaître complètement. On le voit déjà, j'ai plus le chiffre précis, mais je crois que c'est presque une quarantaine de festivals qui ont déjà disparu cette année. Et je pense que le chiffre sera encore plus fort l'année prochaine quand on voit ce qui se présage pour 2026. Les taux de remplissage sont quand même plus faibles On voit qu'il y a une désertion du public, hein, c'est à peu près global à peu près à tous les festivals. Oui, il y a des grandes questions qui vont se poser dans les années à venir, effectivement.
Qu'est-ce que ça dit sur la politique culturelle en France? Est-ce que vous sentez de la part des collectivités publiques, des collectivités territoriales, un soutien suffisant dans le monde de la culture, alors qu'aujourd'hui c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, d'imaginer un avenir commun joyeux autour de moments de fête? Et pour autant, voilà, on sent que c'est difficile. Qu'est-ce que ça raconte de ce qu'on vit du moment?
Non, bah évidemment que non, ce n'est pas suffisant hein, pour vous donner. Effectivement, on a les mêmes montants ou des montants à la baisse de subventions, alors que nous, en parallèle, notre budget, il a doublé le budget global du festival en quelques années, là, depuis 2019. Donc non, évidemment, ce n'est pas suffisant. Après, on rêve tous d'avoir ce modèle économique le plus autonome possible, hein, c'est sûr, mais. On n'y est pas. Et puis, ça fait absolument pas partie des volontés du festival de proposer des tarifs à 100, 150 euros la journée, comme on peut voir dans certains festivals. On n'a vraiment pas envie d'aller sur cette ligne éditoriale-là. Donc, on va continuer de se battre. On va continuer de promouvoir le festival. On a de la chance quand même que le festival il soit reconnu effectivement en région et puis même au niveau national de par ses engagements envers le développement durable et tout ce qu'on a pu mettre en place au fil de ces années. Donc, ce qui fait que Terre du Son a sa place et son empreinte. Mais il faut se battre quasi quotidiennement pour continuer de survivre, oui.
Il nous reste peu de temps, Pauline Ruby, pour parler de Terre du Son, à Tours, les 11, 12 et 13 juillet. J'aimerais juste qu'on se laisse sur une note un peu plus positive que ça, et de justement souligner tous vos engagements écologiques, les engagements autour de l'accessibilité. Comment est-ce que vous faites pour faire tourner le festival d'un point de vue énergétique? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez réussi à réduire votre consommation de fuel? Comment ça se passe?
Oui, alors là, on pourra en discuter pendant des heures, hein, pour le coup.
Aussi,
Mais pour
oui.
vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on a 90% du festival qui est raccordé au réseau, ce qui fait qu'on peut utiliser une énergie verte grâce à notre partenaire Enercoop, et qu'aujourd'hui, sur le festival, on n'a plus qu'un seul groupe électrogène en activité pour un endroit du festival qui n'est pas raccordé. Donc, on a fait tout ce travail-là. On est, comme vous l'avez dit également, très engagé sur une politique d'accessibilité qui prend encore de l'ampleur cette année, avec notamment des navettes pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Et l'autre nouveauté sur ce volet-là, c'est un espace répit pour permettre aux familles de déposer leurs enfants en situation de handicap et que les aidants puissent aller profiter du festival pendant qu'une équipe médicalisée prenne soin de leurs enfants. Donc voilà, chaque année, on essaie de développer, d'appuyer certaines actions pour toujours améliorer nos actions sur ces trois piliers du développement durable et essayer de faire un événement le plus vertueux possible, même si par définition, entendons-nous bien que, évidemment, ce n'est pas vertueux. Mais en tout cas, on essaye de tendre vers.
Vous offrez la possibilité aux festivaliers et festivalières de vivre des parcours sensoriels, de se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap. Ça existe dans d'autres festivals, mais peut-être qu'on peut le rappeler aussi ici à Terre du Son. En quoi ça
On a
consiste?
mis en place depuis 3 ans un jeu. Une sensibilisation particulière pour les festivaliers, qui consiste vraiment à se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap et d'aller réaliser des actions. Je vais donner un exemple, d'aller se servir un verre avec un fauteuil roulant, ou alors d'aller aux toilettes tout en étant aveugle. Enfin voilà, et pour vraiment se permettre au public de se rendre compte à quel point c'est difficile afin de nous permettre aussi toujours plus de nous améliorer dans ce qu'on propose en accessibilité auprès de nos festivaliers. Et donc ça, on a mis ça en place depuis 3 ans. Donc on continue de le développer à nouveau cette année, en plus de toutes les actions en lien direct avec les personnes en situation de handicap.
Ben, si jamais ça vous donne envie, tout ça, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, ben, ça se passe les 11, 12 et 13 juillet au domaine de Candé, pas très loin de Tours, le festival Terre du Son, pour aller voir Damso, Clara Luciani, Yuri Buenaventura, Étienne de Crécy, Chinese Man, Emma Peters, Larouda, et j'en passe. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, parce qu'on parle des prix depuis tout à l'heure. Bon, voilà, figurez-vous que sur Radio Campus Angers, les réseaux sociaux de Radio Campus Angers, c'est gratuit. On a deux places à vous faire gagner. Rendez-vous sur l'Insta et le Facebook du Centre FM pour gagner vos places. Le jeu concours est lancé et les résultats sont annoncés très très vite, là, ce vendredi, je crois. Donc courez sur les réseaux sociaux du Centre FM pour essayer de gagner vos places. Merci beaucoup, Pauline Ruby, d'avoir répondu à nos questions à bord du pédalo.
Merci beaucoup. Et puis, effectivement, rappelez à vos auditeurs qu'il est important de soutenir les festivals indépendants, autofinancés, alors comme Terre du Son et comme Le Foin de la Rue, on les a cités et qu'on les aime beaucoup aussi. Voilà.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Demain, on vous présentera la programmation de juillet du Héron Carré, la fameuse guinguette des bords de Maine. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.